France Inter.
Ce qui compte pour un acteur, c'est la personnalité. Sa présence.
Vous répondrez non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule dans tes lèvres. Ok ?
Ça peut couler, hein.
On ne parle tout.
Allez, action !
Ce qui sera encore mieux, c'est de rien dire. D'observer un moment de silence.
Pour moi, la vie doit être au cœur du cinéma pour y laisser entrer les accidents, les imprévus. L'une l'a dit, l'autre pourrait partager cette philosophie. Et toutes les deux sont réunies ce matin. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à tous.
Ce film-là, elle le porte en elle depuis toujours, comme un grand flashback sur cette filiation qui a guidé toute sa vie. Bonjour Francesca Comencini.
Bonjour.
Dans Prima la Vita, d'abord la vie, vous redessinez votre relation avec ce père Luigi Comencini, grand cinéaste. Un film pour vous réconcilier avec lui et avec votre passé. Prima la Vita est sorti mercredi. À vos côtés, une autre réalisatrice italienne, mais cette fois actrice dans ce film de Karine Tardieu, L'Attachement. Bonjour Valeria Bounizeleschi.
Bonjour.
Intense incarnation de Sandra, une femme farouchement indépendante, ébranlée par l'affection que lui porte un petit garçon et son père, L'Attachement, sur nos écrans mercredi prochain. Enfin, les sorties de cette semaine, la récolte est belle. Du Mohican au Brutaliste, c'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Luigi Comencini, merci d'être venu sur ce plateau de Soir 3. Quand on contemple votre œuvre, l'ensemble de votre œuvre, on dénombre peut-être une dizaine de films qui sont consacrés, comme celui-ci, à l'enfance, à la fin de la période de l'enfance, peut-être au seuil de l'adolescence. Alors pourquoi cette prédilection pour cet âge de la vie ?
Parce que je me trouve très bien avec les enfants. J'ai un bon rapport avec les enfants. Et les faire jouer, pour moi, ça m'amuse. Et je pense qu'eux aussi s'amusent quand ils jouent dans mes films. Et comme personnage, je trouve que ce sont des témoins extraordinaires de notre société.
Ainsi parlait Luigi Comencini, votre père Francesca, grand cinéaste italien, auteur entre autres des aventures de Pinocchio, L'Incompris, L'Argent de la Vieille, Le Grand Embouteillage avec beaucoup d'etc. Luigi, et cette magnifique relation quand vous êtes petite fille et qui va se déliter à l'adolescence, une fiction Prima la Vita, d'abord la vie, sur une vraie vie, la vôtre, alors que toute votre existence, vous avez tenté en devenant cinéaste de vous distinguer de votre père. Comment vous avez trouvé le courage de raconter cette histoire ?
Parce que je ne voulais pas que ces souvenirs aillent perdus. Donc c'est une chose du cinéma, je pense aussi, et de l'art, c'est de ne pas laisser se perdre les choses. Et donc à un moment, devenant moi-même vieille, dépasser... C'est vrai, c'est une question liée aussi à la maturité. Je me suis dit, je ne veux pas que ces souvenirs avec mon père aillent perdus. Alors j'ai commencé à les écrire comme ils me venaient, comme dans un théâtre, dans ma tête, le théâtre de la mémoire. Les souvenirs venaient comme ça et c'est comme ça que je les ai écrits.
Question intime, vous auriez pu le faire de son vivant, ce film ?
Peut-être pas. Je ne sais pas, mais peut-être pas.
Et alors, vous avez trois sœurs. Oui. Dans le film, vous êtes seule avec lui, ce qui est très beau. Vous avez trois sœurs et une mère. C'est un vrai choix scénaristique absolument passionnant. En fait, c'était pour se concentrer sur vous et lui.
J'ai trois sœurs. Christine est une écrivaine, une cinéaste très importante. Paola, une chef décoratrice qui a... Et ça m'émeut à chaque fois parce qu'elle a fait les décors de ce film. Ouais. C'est une énorme preuve d'amour pour moi qu'elle les ait fait. Et ma troisième sœur s'appelle Eleonora et nous sommes une grande force ensemble. Mais c'est vrai que dans ma mémoire, la mémoire, comme je vous disais, c'est comme une mise en scène. Il y a des contes de lumière qui reste là, et tout le reste, on l'oublie. Et moi, je me rappelais que de ces moments avec mon père.
À deux, pas à six.
Et donc, j'ai voulu respecter cette procédé de la mémoire, pas faire un film réaliste ou un film de famille, mais faire un film que sur ça. Et les premières lectrices ont été mes sœurs, qui m'ont beaucoup, vraiment avec un amour incroyable, soutenue.
Vous êtes petite, et votre père, en pleine fabrication de son Pinocchio, et c'est très jolie scène au début, il vous raccompagne chez vous et avant d'ouvrir la porte, il vous pose des questions et vous avez gentiment traduit avec Valeria. Valeria joue votre père et vous jouez elle.
Senti una cosa.
Mais dis-moi, si je te demandais quel est ton personnage préféré de Pinocchio, qu'est-ce que tu me dirais?
Lucignolo.
Ah bon?
Ah sì,
Lucignolo.
Hai ragione.
Tu hai ragione, Lucignolo è un très personaggio, personaggio.
Ma cattivo.
Il è méchant.
Non, secondo me no.
D'après moi non.
Secondo
D'après
me,
moi
vuole...
il vuole seulement être libre.
Vuole solo essere libero.
Oui. Et puis,
ouais, non esiste,
ça n'existe pas les enfants méchants.
On, si nasce
on, on n'est pas méchants. Rappelle-toi toujours ce que disait Mangefeu. Attention, petite, ne te fie jamais à celui qui semble bon. Et rappelle-toi qu'il y a toujours du bon chez celui qui semble méchant.
C'est une belle leçon de vie, ça, Francesca.
Ah oui, extraordinaire. Extraordinaire. Toujours se méfier de ceux qui sont trop bons.
Est-ce qu'il vous parle, il vous parle un peu comme à une grande personne?
Oui, oui, oui. Oui, mais ce qu'il a dit dans son interview que vous avez gentiment retrouvé est exactement ça. Il s'amusait à parler avec les enfants et à les écouter. Et il trouvait ça intéressant.
Tout ce qu'on voit entre vous et lui, petite, le tournage, c'est exactement ce qui s'est passé?
Oui. C'est mes souvenirs. Maintenant, je ne sais pas si c'est exactement ce qui s'est passé, mais c'est exactement mes souvenirs.
C'est drôle, il y a une scène dans, sur le tournage où il dirige un petit garçon et vous êtes en retrait. Est-ce que vous êtes un peu jalouse à ce moment-là?
Bah, un petit peu, oui, forcément. Pas peut-être jalouse, mais je voudrais être... je ne sais pas, peut-être jalouse, ce n'est pas le mot, mais attirée par ce regard qu'il pose sur l'enfant, et... oui.
Et pourtant, il lui parlait aussi bien à vous qu'à lui. Enfin, je veux dire, il utilisait le même langage. Il n'y avait pas de traitement de faveur.
Non, pas du tout. Non, non, non.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est une forme que lui n'a jamais traitée, l'autofiction.
Non, qu'il détestait même.
Oui, il me semble
bien. Il l'a détestée ouvertement, et il me l'a dit. Mais c'est une conception, je trouvais que c'était intéressant que, de montrer aussi des conceptions de passion pour le cinéma commune, la mienne et la sienne, mais deux conceptions du cinéma complètement différentes qui sont liées aussi à des générations différentes de cinéastes. Et cette génération, qui est celle de mon père, mais qui est aussi celle de Monicelli, de Dino Risi, de Ettore Scola, qui sont des très grands cinéastes, on fait un peu tous ça, de faire des films qui ont essayé d'être le plus populaire possible, le plus divertissant, et pas... En même temps, moi je pense, et ça c'est mon interprétation, que mon père a beaucoup parlé de l'enfance et des enfants et des petits garçons vers 10 ans, comme ça, de leur fait de ne pas être compris ou d'être seul, parce que ça se référait à sa propre enfance, avec laquelle il est resté attaché toute sa vie.
Et l'enchantement un jour disparaît, ce père qui savait si bien parler à cette petite fille ne sait plus parler à cette adolescente parce qu'elle commence à lui mentir. Le mensonge est au cœur de ce film.
Ouais.
Il commence avec Pinocchio en fait,
ouais.
C'est la symbolique parfaite du mensonge.
Ouais.
C'est magnifique comment vous traitez ça à partir d'une petite poupée en bois qu'il construit, une métaphore et une métaphore de toute la relation avec votre père.
Oui, parce que Pinocchio, c'est une grande conte de fées, et les contes de fées ont entre leurs récits des archétypes qui nous concernent tous, et c'est le grand archétype Pinocchio de grandir. On commence à apprendre à marcher, après on commence à mentir, à désobéir, après on tombe, et après il y a Geppetto, il y a un père qui vient vous sauver. Mmh. Donc il y a une parallèle. Et puis moi j'ai eu la chance à 9 ans de voir mon père fabriquait Pinocchio.
Votre père tellement intègre, il n'avait pas de défaut, votre père?
Si, si, bien sûr. À mes yeux, non, à vrai dire. Non, si, il était très sévère, hein, quand même. Il le montre aussi dans le film. Il était sévère, mais il était courageux et intègre.
L'adolescence et le jeune âge adulte, vous évoquez votre problème de drogue. Et c'est d'ailleurs par là que vous avez commencé votre carrière de cinéaste, avec Pianoforte.
Oui. Oui, oui, c'est le premier film que j'ai fait. Et après, j'ai attendu toutes ces années pour en reparler en relation à mon père, parce que c'est quelque chose qui a beaucoup marqué ma vie et pour lequel, dans les gares de mon père, j'ai éprouvé aussi une longue honte. Parce que mon père était un homme, pour des raisons comme ça, j'avais honte d'avoir eu... Je me disais, mais comment j'ai pu, tout ça. Mais en même temps, c'est vrai que lui, il a eu du courage, et peut-être moi aussi, de le suivre, et qu'il a été présent. sans dire grand-chose, mais il a été présent.
Il détestait le mensonge, il y a une scène super à l'école où on vous accuse d'avoir menti, et voilà comment il réagit avec la maîtresse.
J'arrive tout de suite, hein. Restez en silence.
Les enfants disent souvent des bêtises,
non,
monsieur.
Non, c'est pas vrai qu'elle mente.
Mais j'ai pas dit qu'elle ment.
Ne dites pas ça, ne dites
pas
ça.
Dit ça.
Ma fille ne ment pas, je crois les enfants. Et vous devez croire les enfants aussi.
Monsieur, ils ne disent pas toujours exactement la vérité.
Alors, maestra, lei deve spiegare ai bambini. Lei deve ascoltarli. E se qualcuno prende in giro un altro bambino, glielo deve spiegare lei. Vous devez croire leurs paroles.
Bon, on va essayer de se calmer et de résoudre les choses d'une façon un peu plus similaire.
Non, excusez-moi. Écoutons les enfants.
D'accord,
écoutons-y.
Oui, parce que la drogue aussi équivaut au mensonge.
Absolument, et c'est ça, c'est quand lui lui demande, comme si elle était restée pareille, dis-moi la vérité, je t'ai toujours cru, et évidemment elle lui ment. Mais aussi, la drogue, la dépendance de l'héroïne oblige à mentir, c'est le lot de la dépendance de mentir. Mais aussi, c'est aussi grandir, comme le dit Pilon, qu'on grandit, on devient adolescent, on est décevant, on se vit décevant par rapport à notre père, à nos parents. Et puis après, on désobéit et on ment. Et après, peut-être grâce à ce qui s'est constitué dans l'enfance, on retrouve quelque chose.
Il y a tellement de choses dans ce film. Il y a aussi l'histoire italienne qui traverse ce film, bien sûr,
oui.
avec l'assassinat d'Aldo Moro, les attentats. En fait, vous racontez aussi une jeunesse italienne, Francesca.
Oui, j'espère. J'ai essayé de raconter ce qui a été mon expérience, de me pencher dans la jeune adolescence, dans un climat qui était terriblement crépusculaire, violent, avec se pencher dans les rues et trouver quelque chose de pesant. Et je pense aussi que l'impact que l'héroïne a eu dans cette génération qui a été la mienne est peut-être dû aussi à ça, à cette grande déception des restes échoués d'une révolution qui n'a pas eu lieu et qui a laissé la place à beaucoup de violence.
Cette fille, donc, vous, la grande peur, c'est de décevoir son père.
Oui. Et de ne pas être à la hauteur, chose que j'ai eue toute ma vie, mais qui a été aussi un moteur. Et après, je pense qu'il y a un moment qui est très important et que j'ai vu touche beaucoup les jeunes spectateurs ou spectatrices que j'ai en Italie, où le père fait l'éloge de l'échec. Où il lui dit, moi j'ai échoué. À ton âge, j'étais comme toi et j'ai pensé. C'est une vraie lettre qu'il a écrite. Je pensais que de tous les métiers que j'avais essayés, le metteur en scène, c'est le seul que je ne réussissais pas. Et je pense que cette leçon de l'éloge de l'échec, que seulement si on est prêt à traverser l'échec, on peut peut-être faire ce travail, et en tout cas faire un travail ou faire quelque chose de sa vie, c'est important.
Et puis après, il fallait se sentir légitime comme réalisatrice. C'est très compliqué, ça, d'avoir un père grand cinéaste italien et ensuite faire du cinéma.
Oui, mais il y a pire quand même. C'est-à-dire que... Non, mais
Non. C'est comme d'avoir un père, même pas forcément artiste, et tout d'un coup de reprendre ce flambeau-là.
Vous savez, ça c'est un peu le lot en Italie de toute ma génération. Non, on a eu une saison de cinéma qui est inégalable, inarrivable. Mmh. Et après, il faut être infidèle, désobéissant,
oui,
et faire un autre cinéma et continuer. Ouais. Et moi... C'est vrai, peut-être que vous avez raison, ça a été plus compliqué que ce que je le perçois maintenant, mais en même temps, et ma sœur Christina aussi, on a travaillé, on a essayé de faire nos choses. Après, par rapport à la saison où mon père travaillait, par rapport à maintenant, avant c'était une grande armée, armata brancaleone, comme disait Monicelli, d'hommes. Maintenant, il y a une entrée importante, encore insuffisante, de femmes réalisatrices, donc qui ont changé la manière. Donc, il y a beaucoup... Moi, je me sentirais peut-être jamais légitime, profondément, mais en même temps, j'ai quand même fait les films que j'avais envie de faire.
Vous êtes d'accord avec lui quand il vous dit d'abord la vie, ensuite le cinéma ?
Oui. Je suis d'accord parce que je pense que c'est une manière de dire que la vie doit être au cœur du cinéma. Je préfère des films imparfaits, dans lesquels on sent la vie, la respiration de la vie, et l'inattendu, tout ça, j'adore ça dans les films.
C'est aussi un grand film sur le cinéma, ce film-là.
C'est une lettre d'amour au cinéma.
Oui.
parce que quand je l'ai écrit, les salles de cinéma étaient fermées à cause de la pandémie. J'ai vraiment eu peur que le cinéma aille perdu. Et donc, c'est une grande lettre d'amour aussi au cinéma. Ouais.
Bah, l'amour que portait votre père au cinéma et qu'il vous a transmis en vous emmenant... Tout ce voyage à Paris est vrai? Vous allez au cinéma avec lui?
Oui, oui, oui. Tout est vrai.
Vous êtes drogué dans la chambre et pour vous sortir de là, il vous emmène dehors.
Oui.
Il vous fait voir des films.
Mmh. Oui. Et il me dit, on va aller au cinéma. Oui.
Et c'est comme ça que vous êtes... C'est ce qui vous a guéri, le cinéma, ou pas?
Oui. Je pense que oui. Aussi. Entre autres, avec beaucoup d'autres choses. Mais j'ai toujours respiré la vie et le cinéma ensemble. Et donc, il n'y avait pas de place pour la mort dans le cinéma, dans le fait d'aller au cinéma, de faire du cinéma, de le regarder. Il y avait la vie.
Et en plus, il vous a appris quelque chose de très important, qui est le pouvoir de l'imagination.
Oui, mais ça, lui, c'est très beau, ça c'est un vrai récit. Parce que lui, il était tout petit venu en France. Et la France est toujours présente dans nos vies. Il est venu à 6 ans en France avec ses parents. Mes grands-parents et son frère, pour des raisons économiques, ils ont émigré et ils voulaient s'échapper, ils voulaient rentrer en Italie, ils ne parlaient pas le français. Et après, c'est en France, à Agen, qu'il a vu son premier film, qui est l'Atlantide de Pabst. Il avait 11-12 ans. Et ce jour-là, il a compris qu'avec l'imagination, on peut s'échapper. Et il a décidé qu'il allait faire du cinéma sa vie.
Non seulement sa vie, mais en plus sauver les films des autres, puisqu'il a créé la Cinémathèque de Milan.
Oui, ça, ils ont été trois, Alberto Lattuada, Mario Ferrari et lui, ils étaient tout jeunes. Ils avaient 18-19 ans, et ils ont sauvé des copies extraordinaires, rarissimes, et tous les films muets qui sont cités dans le film ont été sauvés par mon père, sont le fond avec lequel a été fondée la première cinémathèque italienne, qui est celle de Milan.
Valeria Bruni, c'est ce que vous avez vécu cette époque-là en Italie. Vous avez traversé aussi ces événements. Vous avez été jeune à cette époque-là aussi.
Oui, oui, oui. J'ai beaucoup aimé beaucoup le film qui m'a fait beaucoup d'écho de plein de façons différentes. Je me souviens du jour où j'étais en classe quand on a annoncé que Aldo Moro avait été
enlevé,
puis quand on a annoncé qu'il avait été retrouvé dans le coffre de la voiture, tout ça. Moi, je suis venue en France ensuite, à cause de tout ça, disons, parce que on
était menacés.
Plus par la mafia, les brigades rouges ne kidnappaient pas les enfants. Mais il y avait un mélange, c'était un peu confus dans ma tête. Moi, je pensais que c'était les brigades rouges, et en fait, c'était la mafia. Et moi, j'aurais voulu, en fait, j'en ai parlé dans mon film, dans mon premier film, j'aurais voulu devenir amie avec les brigatistes, parce que je pensais qu'ils avaient raison. Et en fait, il y avait toute une chose de syndrome de Stockholm. En fait, pour aller vite, on est venu en France... À cette époque, à cause de tout ça, donc le film m'a énormément touché. Mais au-delà de la question politique qui est traversée, il y a aussi la question vraiment le rapport avec le père qui me bouleverse aussi, parce que j'avais un rapport très très précis et très fort avec mon père. Et voilà, j'ai vu le film avec mon fils de 10 ans.
Oui.
Donc, c'est étonnant parce que, en fait, ça a été un moment merveilleux entre lui et moi. Donc, je conseille d'aller voir ce film avec les enfants aussi. Ouais. Et il me posait des questions, beaucoup de questions sur les tournages, sur le père, sur Pinocchio, sur la drogue, sur tout le film. On a parlé, c'était extrêmement émouvant. Et voilà, et aussi j'aime beaucoup l'acteur Gifuni, qui est un énorme acteur italien,
magnifique.
Très important.
Et dernière question, est-ce que vous vous sentez plus légère maintenant, Francesca, après ce film?
Déjà, c'est pas pour renvoyer, mais je suis touchée par ce que Valeria a dit, merci. Oui, 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 je me sens heureuse de l'avoir fait, vraiment. Je me sentais déjà légère, j'étais pas non plus que je trimballais des poids terribles, mais je suis heureuse de l'avoir fait, oui.
Ce film,
et nous, on est heureux de le voir.
Oui,
merci.
Ce film est sorti mercredi, maintenant on part en France.
À 2 millions de livres, c'est pourquoi?
C'est mon métier.
Tu es écrivain?
Écrivaine pour une femme. Et non, je suis libraire.
Maman, c'est une céramiste.
Ben voilà.
J'aime pas trop tes peintures.
C'est pas étonnant. Ils sont pas pour le petit garçon.
Tu connais rien au petit garçon.
Qu'est-ce que t'en sais?
T'as pas d'enfant.
T'es bien sûre de toi?
J'ai entendu maman parler. Et puis j'ai vu que t'habites toute seule.
Tu vois beaucoup de choses.
Le bébé est né par ce petit trou.
J'ai rien à t'apprendre.
C'est vraiment possible?
Dieu doit avoir une dent contre les femmes. Bon, je vais me préparer. Tu touches à rien?
Qu'est-ce que je fais, moi?
Je sais pas. T'as pas de jouets dans ton sac?
Non.
Tu veux faire un dessin? Ça veut dire quoi, ça? Oui ou non?
Il hausse les épaules. Sandra, c'est vous, Valeria Bouin-Tedeschi, une femme farouchement indépendante, qui soudainement, et malgré elle, va partager l'intimité de son voisin de palier, Pio Marmaille, et de ses deux enfants, et s'attacher peu à peu à cette famille d'adoption. C'est donc le sujet de L'attachement de Karine Tardieu, inspiré du livre Intimité d'Alice Fernet, une femme apaisée et qui a accepté sa solitude. J'ai dû, dit Karine Tardieu, réfréner le naturel expansif, chaleureux de Valeria pour tenir le fil du personnage. C'était quoi le fil du personnage alors?
Le fil du personnage, dis donc, quelle question.
Oui.
Non, c'est une femme qui a une carapace. Et donc, ça c'est toujours très intéressant pour un acteur de travailler avec derrière, qu'est-ce qui se passe derrière la carapace et qu'est-ce qui se passe quand peu à peu la carapace se fissure. Et donc elle a une apparente sérénité, une apparente tranquillité. Mais évidemment, il y a quelque chose derrière. Qu'est-ce que c'est derrière? C'est la peur, c'est une peur. J'ai travaillé avec ça, avec la peur de l'abandon. Souvent, je travaille avec ça.
Et vous avez travaillé aussi physiquement, parce que ce personnage est spécial. Vous avez les cheveux courts, vous êtes en basket, en jean, et vous portez des lunettes. Et ces lunettes sont super importantes, selon vous?
Oui, j'ai travaillé avec les lunettes. Je trouve intéressant d'avoir des objets ou des gestes symboliques qui, en soi, semblent anodins, mais qui nous déclenchent des émotions. Et les lunettes, le fait de les toucher me faisait penser à un masque, comme si j'avais un masque derrière lequel je regardais le monde. Je ne porte pas de lunettes dans la vie et je n'ai jamais joué un personnage qui a des lunettes. Et j'ai trouvé ça intéressant. Et surtout, ce qui était assez bouleversant, c'est les rares moments où je les retirais. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un qui a tout le temps des lunettes les retire? Il y a comme une... retirer le masque, voilà. Moi, j'aime beaucoup travailler avec l'idée du masque, en général.
Et c'est vous qui choisissez ces moments où vous les retiriez?
Oui, j'ai choisi, et parfois, j'en ai choisi plus que ce qu'il y a dans le film, et Karine me tenait, ou les a pas montés, ou me contenait, voilà. Dans ça, on a eu notre petite bataille pendant le tournage, parce que j'ai peut-être tendance, peut-être à en faire trop, ou en tout cas à faire, au lieu... de faire confiance à être. Et du coup, elle était là pour me contenir. Un peu, beaucoup. Même, j'étais un peu énervée parfois. Jusqu'à ce qu'un jour, je lui ai demandé pourquoi elle n'a pas pris une autre actrice qui était plus semblable au personnage que moi. Par exemple, qui n'avait pas ce goût de faire le clown. Moi, j'ai vraiment le goût du clown. J'aime le clown. Et là, chaque fois que je lui proposais quelque chose, c'était... Oui, c'est bien. Mais non.
Mais il y a les lunettes et la cigarette.
Ah oui, la
vous
cigarette,
fumez autant
c'est...
dans
oui,
le film de Claude Sauté des années 70. Hein.
Déjà, la cigarette, moi, j'adore au cinéma.
Oui.
Déjà.
Pourquoi?
Ah, je trouve que c'est très cinématographique. Je trouve ça magnifique. Et j'adore moi-même fumer au cinéma, même si je ne fume pas dans la vie. Et dans Les Amandiers, j'ai demandé aux jeunes de... le film que j'ai réalisé, de fumer tout le temps, ils n'en pouvaient plus. Et puis j'aime cette chose contre l'air du temps aussi.
Ouais.
Et c'était effectivement, il y avait un écran aussi, un écran de fumée derrière lequel elle...
Elliot, ce petit garçon qui vient de perdre sa mère et assiste à la naissance de sa petite sœur, il vit un tsunami vraiment émotionnel avec son père. Et cette femme, vous, en fait, vous représentez comme un substitut affectif qui va l'aider à traverser. Et vous êtes là, à ce moment-là. C'est ça l'idée.
Oui, mais je suis surtout pas là comme une mère.
Non, non.
Surtout pas. Et c'est ça qui fait qu'il peut venir vers moi, parce qu'il n'a pas l'impression de trahir, d'être déloyal envers sa mère qui est morte. Ouais. Et moi, en tout cas, dans ce qu'on avait décidé avec Karine, dans ce qui était écrit, il y avait un langage aussi que j'ai avec lui, qui est un langage pas du tout d'adulte à enfant, mais qui est plus un peu comme dans le film de Francesca,
oui.
C'est vraiment de personne à personne, hein,
adulte.
Et d'adulte à adulte, ou dans, en tout cas, non, en choisissant les mots pour un enfant. Mais comme Dolto pouvait parler aussi aux enfants, c'est-à-dire que ce sont des êtres qui peuvent entendre pratiquement tout, si on choisit les mots et si on fait attention. Et donc, cette espèce de compagnonnage qu'on avait lui a permis de venir vers moi et de s'attacher à moi sans avoir l'impression de trahir sa mère.
Exactement, vous n'êtes pas un substitut, justement.
Pas du tout.
Alors qu'elle, elle a a priori aucun attrait pour les enfants, cette femme.
Non, oui, elle est un peu énervée par les enfants.
Ouais.
Il la fatigue, oui, c'est vrai. Bon, voilà, c'est possible d'être énervée par les enfants, surtout quand ce ne sont pas tes enfants. Ça, c'est possible, ce n'est pas non plus honteux. Mais voilà, c'est une femme aussi, elle a l'habitude de vivre sans enfants, donc c'est l'habitude aussi.
Quel partenaire c'était, ce petit garçon ?
Bah, il est extraordinaire parce que c'est à la fois un enfant. Et à la fois, il savait son texte, il n'était jamais fatigué, il ne faisait jamais de caprices, il était parfait. Donc à la fois, il avait la naïveté, la fraîcheur, vraiment, qui n'ont que les enfants. Et à la fois... Mais moi, j'aime bien aussi les bébés. J'ai aimé travailler avec les bébés
soeur.
Du film. Parce que
oui,
les
plusieurs.
Bébés me mettaient vraiment... les bébés ou les enfants tout petits, me mettaient vraiment... vraiment en danger.
Eh oui.
Encore plus que César me mettait bien, mais les bébés me mettaient... On est obligé à être très vivant. Et ça, j'aime beaucoup.
C'est quoi l'attachement? Parce que c'est un très joli titre, c'est pas l'amour. C'est quoi l'attachement?
En fait, je sais pas exactement, je sais pas vous faire la définition, mais...
La vôtre.
Je pense qu'il y a à l'intérieur... peut-être un mot que n'utilise pas beaucoup aujourd'hui, qui est tendresse, et qui, pour moi, un mot très bouleversant. Parce que les gens me procurent de la tendresse. Les gens, surtout quand ils s'éloignent de dos, je ne peux pas les regarder. Je suis bouleversée par l'être humain qui s'éloigne de moi de dos. Et donc l'attachement, je dirais que ça a à voir avec ce sentiment de tendresse qui n'est pas une envie de posséder, qui n'est pas une envie d'avoir des choses, mais qui est juste un lien d'être humain à être humain, où on voit l'autre et on le voit dans... Pourquoi le dos me bouleverse ? Parce qu'il me fait penser à l'enfance, en fait. Quand je vois les gens s'éloigner de dos, je pense à eux enfants.
Ah oui ?
Ouais.
Mais c'est aussi lié à l'absence. Vous avez peur de l'absence,
oui.
Du
je
départ.
Je pense à la mort, oui. Mmh.
L'inverse, c'est le détachement. Donc.
Oui, j'ai peur. Et l'attachement vient aussi de la peur que les autres s'en aillent.
Oui.
Enfin, c'est tout ça. Mais disons que mon personnage, au départ, n'est pas un personnage qui s'attache et qui veut qu'on s'attache à elle.
Oui.
Et c'est peu à peu, dans le film, qu'il y a ces liens qui se font malgré elle.
Et ce qui est joli, c'est qu'elle reste indépendante aussi.
Oui, je pense qu'elle restera toujours maintenant.
Toujours.
Mais oui,
je crois que ça va.
C'est ça qui est beau. Ça aurait pu tomber dans un truc
non,
avec
non,
les
non,
enfants.
Non,
pas
non,
du
mais
tout.
Non, le monde de Karine Tardieu, il est quand même très fin. Et d'Alice Fernet aussi. Très fin. Et c'est quand même peut-être un mélo, quand même, le film, mais très très fin et complexe. Il parle de la complexité humaine. Il parle de la nuance. Il y a une magnifique phrase de Yolande Zoberman qui dit « Je suis pour la radicalité de la nuance ». C'est une phrase que j'adore et qui peut vraiment résumer le film.
Et cette femme, elle ne peut pas lutter contre ce qui lui arrive, en fait. Elle a pu lutter contre les hommes.
C'est vrai.
Pour son travail.
C'est vrai.
Là, elle ne peut pas lutter, en fait.
C'est vrai, c'est vrai. Ça se fissure malgré elle. Ça se radoucit malgré elle. Oui. Je me souviens d'un livre quand j'étais petite où il y avait le soleil et le vent qui s'engueulaient parce qu'ils disaient « moi je suis plus fort, non moi je suis plus fort » et puis il y avait un homme qui marchait et ils ont fait la compétition pour voir qui était plus fort. Et le vent, il a commencé très fortement à souffler et l'homme tenait très fortement son manteau et puis après le soleil est arrivé et l'homme a commencé à avoir tellement chaud et parce qu'il avait chaud, il a retiré son manteau. Donc la douceur et la chaleur, je suis restée avec l'image de cet homme qui retirait son manteau par la douceur du soleil.
Francesca, comment vous avez regardé Valeria dans ce film ?
Moi, je dois dire que je me suis beaucoup identifiée à Sandra.
Oui,
oui, parce que c'est un personnage que j'ai reconnu, dans lequel je me reconnais, parce que c'est vrai qu'elle a une carapace. Elle a une carapace aussi parce c'est un personnage de femme qui s'identifie comme féministe.
Oui.
Donc qui a, mais d'une manière très naturelle, très organique. C'est quelqu'un qui a fait un travail et qui l'a apporté à être sur certains domaines un peu protégé avec la carapace, mais à l'intérieur de ça, il y a une extrême douceur, je suis d'accord avec ce que tu disais, Valérie, et elle laisse arriver les choses et ne lutte pas. Donc il y a ce contraste entre le fait, tu sais, on dirait que c'est quelqu'un qui a fait tout un parcours, qui est arrivé à voir comment sont les choses de l'autre bout du regard, et qui n'a pas envie de revenir en arrière, mais qui aussi se laisse porter par la vie et par cette extrême douceur. Moi, je me suis beaucoup reconnue dans cette femme.
D'ailleurs, il y a un personnage qui la comprend très bien, c'est Pio, le père, Pio Marmaille, qui est défait par le deuil, mais qui doit assurer cette paternité, et qui découvre Sandra. On écoute cet échange.
Ce que j'aime bien chez toi, c'est que t'es tout et son contraire. Tu rigoles quand tu te brûles. T'es plus indépendante que des chiottes de palier. T'es verrouillée de partout. Tu tiens une librairie, un télo féministe, et pourtant ton conte préféré, c'est l'histoire d'une jeune fille émotive qui fuit une belle-mère maltraitante et qui atterrit chez cette coloc de petite taille dont elle récure les mini-chiottes, elle lave les mini-slips, qu'elle mini-savonne avec des mini-gants. Et qui, un beau jour, finit par séduire un prince, un berbe, juste en étant belle et en fermant sa gueule. Ah!
Et c'est quoi?
C'est
quoi?
C'est juste un verrou qui vient sauter.
Bah, tu te prends pour qui?
On n'en dira pas plus. On peut dire que c'est un contre-emploi, Valéria, ce film, pour vous. Même si on aime ou pas l'expression, je sais pas.
Je sais pas, peut-être. Mais en tout cas, comme il y a vraiment, je reçois des très grands et gentils compliments de gens vraiment qui sont... Alors je me dis qu'en fait, les gens en pouvaient plus de moi. Enfin, elle se tient.
C'est ce que vous... Non, vous ressentez pas ça, quand même.
Non, mais je dis pour faire rire.
Elle vous a...
Je peux faire rire encore,
mais oui.
Malgré tout.
Elle vous a bien tenu, cette Karine, quand même.
Elle m'a bien tenu.
Ouais.
Je sais pas si je l'ai déjà dit, là, non. Qu'à un moment, oui, j'ai
demandé
pourquoi.
Ouais.
Vous étiez en opposition.
Ben oui.
Elle n'a pas proposé une autre actrice.
Elle a eu raison.
Elle a eu raison à l'arrivée.
Vous vous trouvez bien à l'arrivée.
Bah, écoutez, moi je ne sais pas tellement me juger quand je... Mais je me trouve très bien filmée. Et je me trouve... voilà.
Vous avez bien raison.
Physiquement, pour une fois, c'est rare, je ne trouve pas trop mal.
Ça sort mercredi prochain, ça s'appelle L'attachement Karine Courrier. Tardieu, tandis que D'abord la vie...
Prima la vita.
Merci. Est sorti mercredi, Francesca Comencini. Vous restez avec nous. Merci. On se retrouve pour les sorties après Andrea Laszlo de la Simone. Je vais très mal le prononcer. Un momento migliore.
Ho perso il cuore d'un amico vero. Ho perso tutti. che non ho più nessuno. Ho tanto amore ma non sono stato sincero, ed ho mentito senza rimorso alcuno. Ho avuto un padre, dico un padre vero, che vi ha mostrato cosa vuol dire essere uomo. Ma ho scelto di voler restare bambino, di non seguire l'esempio di nessuno. Ho perso il cuore ed il mio amore vero, l'ho perso ed ora non so più chi sono. Ho dato amore ma non sono stato maturo, e senza amore dovrò vivere. Le ho regalato tutto ciò che avevo, ma quel che avevo poi non era molto, e ho preso tutto derubando il destino. Ma il destino non è preda facile, forse ho mentito sempre, o forse sono troppo sincero, e da una fragile mente, o sono solo immaturo, o più probabilmente non voglio pensare al futuro, perché sono quasi sicuro che sbaglierò per sempre.
France Inter, on aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
On va parler des sorties. Laurent, on va commencer par Le Mohican, qui est le deuxième film de Frédéric Farrucci après La Nuit Venue. En plein cœur de l'été, Joseph, c'est Alexis Mananti, l'un des derniers bergers du littoral corse, voit son terrain convoité par le milieu pour un projet immobilier. Il refuse de céder. Quand il tue accidentellement l'homme venu l'intimider, il est forcé de prendre la fuite et devient la proie d'une traque sans répit du sud au nord de l'île, portée par sa nièce Vanina. Ce film, c'est du vrai cinéma, avec ce western revisité, parce que Farrucci sait filmer un territoire qui est le sien, la Corse.
Oui, alors le polar corse, c'est peut-être après Borgo et Le Royaume, serait-on en train d'assister à la naissance d'un nouveau genre ? Mais après tout, pourquoi pas ? Surtout quand il est aussi réussi que le film de Farrucci. Il est vrai que la Corse, manifestement, et pour contredire la Rochefoucauld, en Corse, le soleil et la mort peuvent manifestement se regarder en face. Alors sur le motif classique de la fuite au maquis, le film développe un récit sec, nerveux, et politiquement courageux, très politiquement courageux, sur les dérives mafieuses et l'omerta générale qui s'ensuit, voire les complicités honteuses qui éclosent également. Et au milieu de ce film brille un casting corse XXL, avec en son centre Alexis Mananti, qui est absolument parfait en berger résistant et traqué.
Le dernier souffle de Costa Gavras avec Denis Podalydès, Cadmerade et Marilyn Canto. Dans un dialogue amical et passionné, le docteur Augustin Masset et l'écrivain Fabrice Toussaint se confrontent pour l'un à la fin de vie de ses patients et pour l'autre à sa propre fatalité. C'est adapté du livre éponyme de Claude Grange et Régis Debray. Costa Gavras s'attaque à un sacré dossier, Laurent, la réalité de l'approche imminente de la mort, en mêlant l'expérience du praticien et les réflexions du philosophe.
Oui, il faut bien dire qu'à la base du film, il y a un livre, ce livre, et pas n'importe lequel, c'est celui qui retranscrit le dialogue entre, vous le disiez, le philosophe médiologue Régis Debray, et puis Claude Grange, ancien chef d'un service d'unité de soins palliatifs pendant, je crois, 25 ans. C'est un dialogue au sommet, évidemment, entre deux consciences absolument aiguisées sur le sujet. Et Costa Gavras a fait le pari très risqué de transposer ce dialogue dans le cadre d'une fiction avec acteurs et récits différents. Et ben, c'est un pari absolument réussi, car le film de Costa n'est pas le reflet un peu bêta du livre. Il n'est pas dans un engagement au service d'une cause, d'un débat sociétal, mais plutôt un regard sur ce qui fait au fond, le précieux de la vie au moment des adieux, et c'est souvent bouleversant.
Les damnés du cinéaste italien Roberto Minervini. Hiver 1862, pendant la guerre de sécession, l'armée des États-Unis envoie à l'ouest une compagnie de volontaires pour effectuer une patrouille dans les régions inexplorées. Alors que leur mission change de cap, ils questionnent le sens de leur engagement et leur communion entre vie et nature. D'ailleurs, le film est entièrement tourné en décor naturel, Laurent.
Oui, alors je sais bien qu'il vit aux États-Unis, mais oui. Roberto Minervini, c'est un Italien, hein, à la base. On parle beaucoup d'Italie aujourd'hui, donc autant lui rendre hommage aussi. Amateur de western pétaradant, vous passerez votre chemin. Minervini explore d'autres horizons du genre moins convenus et peut-être plus stimulants. On est plutôt du côté de Kelly Reichardt et de ses dernières pistes ou de sa First Co, par exemple.
Pas mal comme référence.
Mais oui, parce qu'il y a un minimalisme qui fait du bien. Le cinéaste scrute le quotidien de ses soldats nordistes, pris entre les marches qu'ils effectuent et les bivouacs pendant lesquels ils se reposent. Mais à peu, évidemment, on sent quelque chose de l'ordre de Dino Buzzati et du désert des Tartare ou bien encore de Julien Gracq et de son balcon en forêt, c'est-à-dire une menace omniprésente, omnipuissante, mais qu'on ne voit pas. Et l'ensemble est absolument magnifique.
Bridget Jones, folle de lui, de Michael Morris. Bridget Jones a 52 ans et deux enfants après le décès de Marc Darcy, avec qui elle a vécu 10 ans de bonheur. Elle est à nouveau en quête de l'homme idéal. Il y a trois deuils à faire avec ce film, celui d'un mari, celui d'un père, et enfin celui d'une saga, Bridget Jones. On a la cinéphilie qu'on mérite, moi j'aime ce personnage, cette trentenaire gaffeuse, malheureuse en amour, ses bonnes résolutions, une série de rom-com légère, pétillante, horripilante parfois, et même dans ce dernier épisode, inégal certes, est sauvée par deux autres grands interprètes, Emma Thompson dans le rôle de la gynécologue, et bien sûr Hugh Grant, sa fantaisie, son humour. Il faut parfois savoir fermer une porte. Ce film est une très jolie façon de le faire. Striptease intégrale, Laurent, de Jean Libon, Clémentine Bisio, Régine Dubois, Stéphanie de Smet, Mathilde Blanc et Yves Inan. En fait, c'est la série culte. Striptease qu'on connaît avec une influenceuse à Dubaï, un hypochondriaque, une actrice amateur à Avignon. Et un médecin légiste.
Oui, alors c'est le troisième film en fait réalisé par Jean Libon, qui est l'un des cofondateurs de la série. Oui. Mais là, il y a cinq réalisatrices, ce qui est très nouveau, hein, parce que jusqu'à présent, c'était pas très féminin l'équipe. Hein. Donc après ces deux films consacrés, vous vous en souvenez, à une juge incroyable, c'est une série de nouveaux portraits éclatés à l'image de cette influenceuse française qui va à Dubaï se faire poser des plaquettes dentaires. C'est exactement ce que montre ce genre de film. Mais là où c'est très fort, c'est que on ne se cantonne pas à une sorte de voyeurisme un peu malsain. On fait des portraits, mais avec un sens, par exemple, aigu du montage, qui fait que l'art délicat du montage est mis en avant.
Sans cynisme.
Exactement, sans cynisme. Donc, ça reste absolument recommandable, ce nouveau strip.
Et pourtant, ils en disent des conneries, hein, ces influenceuses.
Ah, ben, ça n'empêche rien.
La vie en gros, c'est de l'animation en stop motion et en 2D de Christina Duflocva. C'est la rentrée, Ben trouve que ses camarades ont changé, il aimerait que Claire s'intéresse à lui, mais son poids le complexe.
Merveille de l'animation tchèque, primée à Annecy au festival du film d'animation. On en a un peu marre dans le cinéma d'animation, notamment pour enfants, des gros qui sont souvent des monstres à la Shrek, mais qui ne parlent pas des réalités de ce que peut être évidemment le poids pour des enfants à l'intérieur d'un univers enfantin. Je sais bien que Luigi Comencini a raison, les enfants ne sont pas méchants, mais ça leur arrive quand même d'être un peu limite avec ce genre d'état, et le film montre des choses très sensibles, très juste, formidable. Il y a un petit côté Adam Elliot, vous savez, Mémoire d'un escargot, mais en beaucoup moins trash, c'est hautement recommandable.
À la sortie de chaque séance, le cinéma de La Vie en Gros, un carnet de recettes de Ben, sera distribué aux jeunes spectateurs. Et je rappelle le nom de cette réalisatrice, Christina Duflocva.
Il faut.
Et puis, bien sûr, on a beaucoup parlé la semaine dernière, film incroyable qui s'appelle The Brutalist. C'est un Américain qui s'appelle Brady Corbett. C'est l'histoire sur près de 30 ans d'un architecte juif né en Hongrie, Laszlo Tot, revenu d'un camp de concentration. Il émigre après la fin de la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis pour connaître son rêve américain qui va devenir un cauchemar. Et c'est avec un immense acteur, Adrian Brody, qui a déjà reçu le Golden Globe et qui a toutes ses chances aux Oscars.
Et c'est un faux biopic et ça fait du bien.
Oui. Une reprise, Laurent, une grande reprise.
Western spaghetti, fresque sociale, opéra bouffe, roman picaresque, fable burlesque, plus un casting XXL, plus la musique de Morricone. Si vous n'avez pas reconnu C'est une fois dans l'Ouest, il faut absolument vous précipiter au cinéma pour aller le voir.
On a le temps, Laurent, vous l'avez bien vu, j'imagine, Francesca, ce film.
Non, je ne l'ai pas encore vu.
Mais non. Et qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là quand il est sorti, alors?
Mais de quel film?
Il était une fois dans l'Ouest.
Ah oui.
Oui, Sergio Leone. Non, vous l'avez vu, oui.
1969. quel film français vous
montrez? Vous savez, moi j'ai fait une série western.
Mais oui.
Django, donc j'adore le western.
Et votre père vous montrait beaucoup de films français aussi?
Oui, 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 bien sûr.
Vous en avez un en mémoire de votre adolescence?
Peut-être, voilà, là, tout à coup, un film que j'ai vu avec mon père quand j'étais petite, c'était Adèle H. de Truffaut.
Ah oui.
Avec Adjane.
Toujours un fils et un père.
Oui, compliqué. Toujours l'histoire, oui, un certain Victor Hugo. Absolument.
Festival Tournée Bobine, Laurent?
Oui, c'est en Côte d'Or, dans le département de la Côte d'Or, du 22 février au 7 mars, dans 19 communes de la Côte d'Or. Ben, il y a un cinéma itinérant, j'adore l'idée, avec pour des projections de deux films pour enfants, un pour les plus de 3 ans, l'autre pour les plus de 6 ans. Et chaque séance, évidemment, tourne au goûter, au festif, etc. Donc c'est vraiment une très très belle initiative, Tournée Bobine en Côte d'Or.
Deux cadeaux, deux livres pour nos invités.
Absolument. Pour vous, Valéria Brunetteschi, un ouvrage sur une certaine Bardot, Brigitte, une de vos consoeurs comédiennes. Et c'est Antoine Debac qui s'y colle. Après nous avoir donné des énormes pavés sur Truffaut, Godard, Romère ou Chabrol, ben là, il réduit la voilure, mais pour réduire, mais au bon sens du terme, l'objectif peut-être sur moins l'actrice Bardot, même s'il parle par exemple du mépris, mais pour aussi nous parler du mythe Bardot à travers notamment les implications politiques, la guerre d'Algérie. Moi, ce que je ne savais pas du tout par rapport à la façon dont Bardot a été maltraité par l'OAS, le féminisme dont elle a certainement incarné un moment important en France, et peut-être, et malheureusement, au bout du compte, aussi l'extrême droite.
Ouais.
C'est donc un récit, en quelque sorte, qui paraît aux éditions Les Pérégrines, et sous la plume de Antoine Debac, et c'est tout à fait inspiré.
Et enfin, pour
Francesca. Et puis pour vous, l'Ange Pasolini, c'est une magnifique BD qui vient de paraître aux éditions Graphiques de Denis Gombert, Arnaud Delalande et Éric Liberge, à l'occasion du 50e anniversaire de la disparition évidemment de Pasolini. C'est une magnifique plongée à la fois onirique et réaliste dans la vie et dans l'œuvre du cinéaste. L'Ange Pasolini aux éditions De Noël Graphique. On est heureux de vous l'offrir.
Merci beaucoup.
Merci à toutes les deux. Merci Francesca Comencini pour ce très beau film qui s'appelle d'abord La vie, prima la vita. Merci beaucoup Valéria Brunetteschi. On ne vous avait jamais eu en studio, ben on est bien content. On n'a pas raté notre matinée pour ce film, L'attachement qui sort mercredi prochain. Merci à notre
J'espère
équipe.
À bientôt.
Oui,
très bientôt.
Merci à Valérie Ayestaraï à la réalisation, Louise Tempéro à la préparation et Thierry Dupin pour la programmation musicale. Au
revoir. Merci à vous. Salut.